3. La compétence. Deuxième exigence pesant sur l'éthos des oratrices et des orateurs, il nous faut paraître compétents. Donner l'impression que nous savons de quoi nous parlons, que nous maîtrisons la question en discussion. Rappelons-le encore une fois, évaluer la rigueur d'une argumentation est un acte coûteux en termes de ressources cognitives. Pour le cerveau, il est beaucoup plus commode et fluide de se demander si l'individu présentant cette argumentation est une source en laquelle il est possible d'avoir confiance. Si nos auditeurs se forgent la croyance que nous sommes compétents sur notre sujet, ils en accepteront d'autant plus facilement nos conclusions, parfois même sans prêter attention aux raisonnements qui nous auront permis d'y parvenir. En termes rhétoriques, il s'agit d'une modalité de conviction proche de l'argument d'autorité. Celui-ci, nous l'avons vu, consiste à fonder la valeur d'une proposition sur la crédibilité de son auteur. L'autorité mobilisée est donc extérieure à l'oratrice ou l'orateur, qui la convoque explicitement au sein de son argumentation. « Telle proposition me semble bonne », parce qu'elle nous vient d'un éminent spécialiste. À l'inverse, l'éthos de compétence est une dimension interne au discours. Il émane directement des oratrices et des orateurs qui n'ont donc pas nécessairement besoin de le revendiquer haut et fort. Je vous soumets telle proposition, et puisqu'elle vient de moi, vous pouvez l'accepter sereinement. Seulement voilà. Comme pour tous les attributs de l'éthos, la compétence perçue par les auditeurs ne découle pas, ou du moins pas entièrement, de la compétence réelle de la personne qui s'exprime. Nous avons tous probablement déjà rencontré des individus experts de leur sujet, mais tellement brouillons qu'ils en viennent à jeter le doute sur leur propre crédibilité. À l'inverse, les beaux parleurs savent bien qu'un peu d'éloquence et un accès à Internet suffisent pour sembler maîtriser une question dont, quelques minutes plus tôt, ils étaient encore totalement ignorants. Il ne suffit pas d'être compétent pour le paraître, et l'on peut paraître compétent sans l'être. En tant qu'oratrices ou orateurs, nous n'avons pas le choix, nous allons devoir apprendre à maîtriser les outils rhétoriques de la crédibilité. Les preuves explicites de compétence. Le premier fondement de notre image de compétence, ce sont les preuves explicites dont nous pouvons nous prévaloir. Les titres, statuts, diplômes, expériences, concourt à insuffler le sentiment à notre auditoire que nous sommes experts de notre sujet. Ce qui ne va pas sans soulever quelques difficultés. La première et la plus évidente est que, à moins de vouloir nous lancer dans une carrière d'imposteur ou de faussaire, il nous faudra avoir réellement acquis de telles preuves pour être en mesure de les produire légitimement. Autant dire, bien souvent, des années de travail. Et quand bien même, cela ne sera pas suffisant. Il nous reste encore à savoir les utiliser correctement, ce qui implique de résister à une tentation généralement dommageable, celle de nous protéger derrière un protocole de dissuasion. Par ce terme, nous entendons la stratégie consistant à aligner explicitement autant de preuves de compétence que possible, généralement en préambule d'une intervention. L'objectif d'une telle manœuvre, c'est d'asseoir brutalement notre éthos pour nous assurer de ne plus jamais être contestés. Hélas, nous nous exposons ce faisant à deux écueils compromettants. Étude de cas. Passionné d'astronomie depuis ma plus tendre enfance, je suis aux anges. La bibliothèque de mon quartier m'a proposé d'assurer une conférence sur le Big Bang. Une responsabilité modeste, il est vrai, mais par laquelle je suis enchanté. Le jour J, mon intervention est prête. Mais en arrivant sur le lieu de l'événement, la panique m'étreint. La petite salle, d'ordinaire clairsemée, est bondée. J'aperçois même dans le public des astronomes confirmés que je suppose au moins aussi éclairés que moi sur le sujet. La voix nouée par l'angoisse, je décide de commencer en faisant preuve de ma compétence. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de pouvoir vous parler de l'origine de l'univers. C'est une question qui me passionne depuis des années. J'ai eu l'occasion de l'étudier pendant mon master de physique à l'université. J'ai par ailleurs gardé contact avec mon directeur de mémoire. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons discuté ensemble de la découverte des ondes gravitationnelles. Depuis, j'ai écrit plusieurs articles pour notre quotidien régional sur les phénomènes observables dans le ciel à l'aide de simples jumelles. Vous connaissez peut-être aussi ma chaîne YouTube qui a déjà plus de 20 000 abonnés. Et évidemment, au fil des années, j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec de très nombreux chercheurs. Laissez-moi vous citer quelques noms. Hélas, mes précautions semblent bien mal fonctionner. À mesure que je parle, je vois de plus en plus de sourcils se froncer. Décryptage. Nous nous y sommes pris bien maladroitement. En voulant rassurer les auditeurs sur notre compétence, nous avons au contraire suscité leur irritation, voire leur suspicion. Quand allons-nous enfin en venir aux faits? Pourquoi diable ce besoin irrépressible de se raconter? Aurions-nous quelque chose à prouver ou à cacher? Notre expertise laisserait-elle en réalité à désirer? En cherchant à justifier mordicus notre légitimité à prendre la parole, nous avons attiré l'attention sur le fait que nous pourrions, justement, ne pas en être dignes. Nous venons de nous heurter au premier écueil du protocole de dissuasion, produire l'effet inverse de celui recherché. Rappelons-nous que, en rhétorique, ce que l'on a besoin de préciser, c'est ce qui ne va pas de soi. Revendiquer haut et fort sa compétence, c'est prendre le risque d'admettre et même de suggérer qu'elle pourrait être mise en doute. Il faut reconnaître que ce ne sera pas toujours le cas. Si nous sommes en mesure d'écraser nos auditeurs sous le poids d'une expertise irréfutable, celle-ci pourrait bien atteindre son objectif et réduire toute critique au silence. Mais, ce faisant, nous avons de grandes chances de tomber dans le deuxième écueil du protocole de dissuasion, produire un impact démesuré par rapport au but recherché. La frontière est mince, en effet, entre la compétence et l'arrogance. En étalant crânement notre curriculum vitae et en exhibant fièrement nos faits d'armes, nous parviendrons sans doute à asseoir notre autorité. Mais nous risquons également de paraître distants, suffisants, méprisants. Nous nous assurerons de ne pas être contestés tout en nous condamnant à ne pas être aimés. Du point de vue de l'éthos, c'est un énorme prix à payer. Il peut certes arriver qu'il soit intéressant et même nécessaire de faire appel à un tel protocole de dissuasion. C'est notamment le cas lorsque notre compétence fait clairement l'objet d'interrogations de la part de nos auditeurs, voire, pire, a été directement mise en cause par un interlocuteur. Nous devrions alors avoir pour première préoccupation de conjurer ces doutes, fût-ce au sacrifice de notre sympathie. Mais, d'une manière générale, évitons autant que possible d'avoir recours à ce procédé qui risque fort de nous rendre douteux ou détestables. Comment ? La réponse est simple. Plutôt que d'aligner nos preuves explicites de compétences, nous allons les distiller tout au long de notre intervention. Notre cursus sera évoqué brièvement au détour d'une précision chronologique. Nos hauts faits seront mentionnés innocemment à l'occasion d'une anecdote. Nos titres seront indiqués négligemment sur la première diapositive de notre présentation ou sous notre signature. L'air de rien, par petites touches, nous déployons notre compétence en une élégante constellation. Elle sera beaucoup plus à notre avantage qu'une féroce dissuasion. Les marqueurs implicites de compétence. La seconde source à même d'irriguer notre image de compétence est plus subtile. Il s'agit des marqueurs implicites que nous allons décliner au fil de notre discours. Par marqueurs implicites, nous entendons l'ensemble des signes qui vont donner l'impression à nos auditeurs que nous maîtrisons notre sujet. Nous en avons déjà croisé un certain nombre qui tiennent à la composante vestimentaire de l'éthos. Un uniforme, un costume ou même une simple paire de lunettes peuvent suffire à nous faire paraître plus compétents. La plupart des marqueurs implicites relèvent toutefois de la dimension verbale du discours. Données minutieuses, produites à la décimale près, publications savantes, citées in extenso, normes juridiques, référencées jusqu'à l'alinéa, termes techniques, si possible en latin, tous contribuent à crédibiliser notre propos et à renforcer notre image. Ils nous permettent de suggérer notre compétence sans avoir à la revendiquer. Nous n'avons plus qu'à en saupoudrer discrètement l'ensemble de notre intervention. Attention toutefois, il existe ici aussi deux écueils dont il faut nous garder. Tout d'abord, les marqueurs implicites de compétence ne doivent en aucun cas nuire à l'intelligibilité du propos. Il nous faut veiller à ce qu'il reste de simples détails, facultatifs et superflus. Nous devrions toujours pouvoir les supprimer sans que notre discours en soit altéré. À l'écrit, il prendrait probablement la forme d'indications entre parenthèses ou en notes de bas de page. Si nous nous rendons compte que ces marqueurs, et notamment les termes issus d'un lexique spécialisé, sont au contraire essentiels à la bonne compréhension de nos phrases, c'est que nous sommes engagés sur une pente dangereuse. En voulant affermir maladroitement notre autorité, nous sommes probablement en train de devenir confus, cryptiques, abscons. Bref, nous jargonnons. Nous voulions avoir l'air compétent, nous nous contenterons de paraître brouillons et agaçants. Restons vigilants donc à ce que ces marqueurs techniques ne viennent pas pervertir le cœur de notre rhétorique. Sauf à nous trouver face à un auditoire lui-même expert de la question, ils doivent rester un outil et non un mode d'expression. Second écueil auquel il nous faut prendre garde, suremployer les marqueurs implicites de compétence. Quand bien même ils seraient maniés correctement, leur démultiplication n'en nuirait pas moins aux propos. Nos auditeurs ne tarderaient pas à remarquer le procédé qui, trop visible, deviendrait à son tour contre-productif. En faisant ostensiblement étalage de notre technicité, nous donnerions l'impression d'avoir quelque chose à prouver. Au lieu de paraître crédibles, nous deviendrions risibles. En nous souvenant que l'expertise la plus efficace, c'est celle qui semble aller de soi. Parsemer les preuves explicites, saupoudrer les marqueurs implicites, voilà quelques éléments de méthode simple qui, bien appliqués, peuvent nous permettre de paraître compétents sans jamais avoir eu à le revendiquer. Notre éthos en sera renforcé. 4. La séduction. Troisième exigence pesant sur l'éthos des oratrices et des orateurs, il faut paraître séduisant, faire en sorte d'être aimé ou au moins apprécié. Cela pourrait sembler désespérément futile, à raison du reste. Si nous étions pleinement rationnels, seule la rigueur des argumentations et les mérites des propositions devraient nous conduire à accepter ou refuser de nous laisser convaincre. Que la sincérité et la compétence des individus entrent en jeu, passe encore. Mais que ceci nous semble attachant ou déplaisant, cela ne devrait avoir aucune raison d'interférer avec notre jugement, n'est-ce pas? Et pourtant, nous savons désormais que c'est bien ainsi que fonctionne notre cerveau. Confronté à la difficile question « Est-ce que je trouve cette argumentation convaincante ?», il a tôt fait de lui en substituer une autre, beaucoup plus commode, « Est-ce que j'apprécie celui qui me la soumet ?» C'est la définition même de l'heuristique d'affect. Qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore, paraître séduisant, c'est déjà être plus convaincant. Ce que séduisant veut dire. Séduisant. Le mot pourrait paraître curieux. À sa place, on en attendrait d'autres, plus conventionnels. Sympathique, notamment. Cela aurait eu du sens. Bien souvent, être considéré par nos auditeurs comme agréable, chaleureux, avenant, sera effectivement un atout pour emporter leurs convictions. Bien souvent, mais pas toujours. Il arrive dans certaines situations que ce soit d'autres traits qui soient valorisés. La fermeté, par exemple. Auquel cas, paraître sympathique devient moins une ressource qu'une faiblesse. Cette qualité ne peut donc pas, rigoureusement, être considérée comme un attribut général de l'éthos. Charismatique, alors, peut-être. Il est vrai que ce qualificatif possède bien des vertus, au premier rang desquelles son caractère englobant. Il est difficile d'imaginer une situation dans laquelle montrer du charisme ne serait pas un atout. La difficulté provient plutôt du fait que ce concept possède une part importante d'ambiguïté. Il semble en effet qu'il soit indéfectiblement lié non pas seulement aux qualités propres des individus, mais également à leur réussite. Quelles sont les personnes dont on dit qu'elles sont douées de charisme? Celles qui parviennent à convaincre, commander, diriger, bref, à imposer leur volonté. Mais parviennent-elles à le faire parce qu'elles sont charismatiques? Ou, au contraire, dit-on d'elles qu'elles sont charismatiques parce qu'elles ont du succès? Pour répondre à cette question, il nous suffit de fouiller notre esprit en quête d'exemples de personnalités que nous qualifierions, nous-mêmes, de charismatiques. Il est hautement probable que les noms auxquels nous pensons spontanément soient ceux d'individus au destin glorieux. Il est beaucoup plus difficile, en revanche, d'identifier des personnes n'ayant jamais rencontré le triomphe, mais dont nous serions prêts malgré tout à reconnaître le caractère charismatique. Ce qualificatif apparaît ainsi moins comme la condition d'une rhétorique efficace que comme sa conséquence. Non pas un glaive brandi au service de notre force de conviction, mais une couronne reçue a posteriori comme une consécration. Le mot le plus juste pour désigner le troisième attribut majeur de l'éthos semble donc bien être séduisant. Il faut évidemment s'y arrêter un instant. Être séduisant, ce n'est pas être séducteur. Ce dernier terme renvoie clairement à l'univers amoureux ou sensuel. Il peut, en outre, suggérer des connotations péjoratives. Le séducteur est souvent perçu, à tort ou à raison, comme ensorceleur, corrupteur, voire manipulateur. À l'inverse, l'individu séduisant, c'est celui qui exerce un vif attrait sur autrui par son charme ou ses qualités. Une traduction parfaite de l'idée que nous acceptons plus facilement de nous laisser convaincre par quelqu'un que nous apprécions.